Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Dans Priorité Santé, nous consacrons régulièrement des émissions à l'épilepsie, cette maladie neurologique qui touche près de 60 millions de personnes dans le monde. Une maladie chronique, entourée de fausses croyances, frappée d'une forte stigmatisation en raison notamment des crises parfois spectaculaires qui la caractérisent. Alors, au-delà de la prise en charge de l'épilepsie, nous allons aujourd'hui nous arrêter sur d'autres troubles qui peuvent accompagner, précéder ou suivre les convulsions, les troubles psychiatriques qui affecteraient un patient sur trois souffrant d'épilepsie. Des troubles qui peuvent affecter l'humeur, le comportement, l'attention. Ces pathologies conjointes ont dans certains cas un rapport de cause à effet, mais dans d'autres, non. D'où l'importance pour neurologues et psychiatres de croiser leur expertise pour comprendre les causes, déterminer le protocole le plus adapté à chaque cas, une interdisciplinarité nécessaire pour alléger le fardeau des patients sur qui pèse désormais une double menace, celle imprévisible de l'épilepsie comme celle des troubles psychiatriques susceptibles d'altérer encore davantage leur qualité de vie. L'interaction entre maladie psychiatrique et épilepsie en studio avec nous pour en parler, un neurologue, le docteur Gilles Huberfeld, bonjour.
Bonjour.
Neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, spécialisé en neurophysiologie, chercheur dans le laboratoire INSERM épilepsie de l'enfant et plasticité cérébrale. Et un psychiatre, le docteur Marc Masson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur médical de la clinique du Château de Garches en région parisienne, auteur de l'ouvrage « Que sais-je sur les troubles bipolaires » aux presses universitaires de France. Et puis, tout à l'heure, nous serons en ligne avec le Togo, avec le professeur Moufou Bello, chef du service de neurologie au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Et vous retrouverez en fin d'émission la chronique Nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Vos questions, vos témoignages, vous connaissez notre numéro, c'est le 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Épilepsie, troubles psychiatriques, neurologue psychiatre, docteur Gilles Huberfeld, est-ce que cette prise en charge conjointe, cette démarche interdisciplinaire, c'est quelque chose de récent?
Alors, anciennement, ça l'est pas, parce que finalement, on a vécu une longue époque où neurologue et psychiatre faisaient le même métier et s'occupaient de potentiellement plusieurs aspects de la discipline. C'est plus le cas, et on sait que l'épilepsie, qui est une maladie qui est associée à de fortes comorbidités psychiatriques, ça veut dire que les patients souffrant d'épilepsie ont plus fréquemment que les autres des troubles psychiatriques, notamment dépressifs, anxieux et addictifs, que nous, neurologues, finalement, on peut éventuellement détecter, mais on ne sait pas très bien traiter. Et donc, il y a vraiment une approche conjointe associée avec le psychiatre qui est importante, donc dans la détection et ensuite dans la prise en charge. Elle n'est pas toujours formalisé, et donc c'est important que les deux disciplines se rapprochent pour optimiser le soin qu'on apporte aux patients.
Mais comment l'information vous parvient-elle? Vous traitez quelqu'un qui est épileptique, docteur Gilles Huberfeld, et un jour il vous confie certains symptômes, comment ça se passe?
Alors quand ça se passe comme ça, c'est que ça se passe pas bien. Normalement, on doit aller les chercher. Ça fait partie de la prise en charge globale de la personne que de compter ses crises, de regarder s'il tolère bien les médicaments et puis si globalement il va bien. De la même façon qu'on rechercherait s'il a une allergie cutanée, par exemple, à son médicament. Dans le cas de la prise en charge de sa maladie épileptique, on doit vérifier auprès de lui qu'il n'a pas de troubles anxieux importants, qu'il n'est pas déprimé. D'abord parce que ça doit se prendre en charge en tant que tel et puis aussi parce que ça va impacter directement la maladie épileptique. Généralement, quand les patients vont mal au point de vue psychiatrique, au point de vue anxieux et thymique, à ce moment-là, ils font plutôt plus de crises. Et donc, il faut essayer de régler la situation, notamment de leur humeur, avant d'essayer de renforcer forcément, immédiatement, tout de suite, le traitement antiépileptique.
Docteur Marc Masson, alors quelles sont ces pathologies psychiatriques, ces troubles qui sont le plus souvent associés à l'épilepsie?
Alors, il y a deux types, en fait, d'associations entre les troubles psychiatriques et les épilepsies. Celui dont on vient de parler, qui est au fond la comorbidité, c'est-à-dire qu'il y a la maladie épileptique avec ses crises, plus ou moins bien contrôlées, et sans lien chronologique avec les crises, le développement de troubles psychiatriques associés. Donc les troubles de l'humeur, on l'a dit, qui sont de loin les plus fréquents, notamment quand les personnes souffrent d'une épilepsie qui est localisée, on appelle ça une épilepsie focale, dans certaines régions du cerveau, les régions frontotemporales. Ensuite, on peut également avoir beaucoup de troubles anxieux, et puis, dans 20 à peu près % des cas, et puis des troubles addictifs. Donc ça, ce sont les troubles psychiatriques qui sont sans lien direct chronologiquement, en tout cas avec les crises d'épilepsie. Puis après, il y a un deuxième type de symptômes psychiatriques que l'on peut rencontrer, ce sont les crises d'épilepsie qui elles-mêmes vont produire au moment de la crise certains symptômes psychiatriques, comme une agitation, des idées délirantes, des pleurs, des cris, voire des symptômes anxieux très violents, comme des crises de panique, et qui symptômes qui, eux, vont se résoudre en quelques dizaines de secondes quand la crise d'épilepsie va disparaître. Mais donc, c'est bien deux situations différentes, et je dirais qu'en tant que psychiatre, on peut être amené à recevoir des personnes qui présentent des symptômes anxieux, par exemple, les types d'attaques de panique, et si on ne mène pas suffisamment bien notre examen clinique, notamment en concertation avec un avis neurologique, on peut passer à côté d'une épilepsie qui va s'exprimer à travers ces crises par des symptômes psychiatriques.
J'ai une question qui va peut-être vous paraître naïve, docteur Marc Masson. Finalement, quand les gens vont très mal parce qu'ils sont épileptiques, est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'ils vivent mal le fait d'être épileptique?
Alors après, effectivement, il y a tout le vécu de la maladie, qui est une maladie, je dirais, très chargée symboliquement, hein, qui a malheureusement été grevée au Moyen-Âge, mais encore jusqu'à aujourd'hui, de tas de croyances, de représentations très négatives, pour ne pas dire maléfiques. Et effectivement, la stigmatisation en Europe reste encore très importante. Donc c'est sûr que une maladie qui peut nous exposer à une crise en public, une perte de connaissance, des mouvements anormaux, voire des propos incohérents, ça peut être extrêmement angoissant à vivre, parce que ça peut survenir au travail, pendant la vie de famille. Donc c'est sûr qu'il y a un inconfort psychologique de fait qui est lié à cette maladie.
Est-ce que vous avez eu des patients, docteur Marc Masson, qui vous suiviez donc pour une pathologie psychiatrique, et l'épilepsie s'est déclarée plusieurs années après? Est-ce que vous, dans ce cas-là, vous essayez de voir s'il y a un lien entre les deux?
Alors, bon, après, les liens de causalité en médecine sont difficiles à établir. En tout cas, évidemment, en psychiatrie et en neurologie, nous soignons des pathologies qui ont leur siège dans le cerveau. Et donc, qu'il y ait des interférences entre certaines pathologies, en soi, ça paraît assez probable, même si on ne connaît pas toujours exactement les mécanismes d'association. Alors, pour ce qui est de la dépression, par exemple, on sait que, on le disait tout à l'heure, si un patient épileptique, surtout quand il a une épilepsie focalisée, localisée dans une région du cerveau, il a un risque sur deux de développer une dépression. Mais à l'inverse, on sait qu'un patient qui a développé une dépression, et en plus encore une dépression récurrente, c'est-à-dire à rechute, va avoir plus de risques de développer secondairement une épilepsie que le tout à chacun. Donc en fait, il y a bien une relation, j'allais dire, bidirectionnelle entre les troubles dépressifs et certaines formes d'épilepsie.
Et là se pose directement, docteur Gilles Huberfeld, la question de la prise en charge de ces patients. Certains médecins disent qu'il n'y a pas une épilepsie, qu'il y a plusieurs épilepsies. Pourquoi justement on fait cette distinction? Est-ce qu'il y a vraiment des variations si grandes de la maladie qu'on pourrait établir en quelque sorte des sous-classes?
Énorme. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'épilepsies différentes. Alors globalement, on classifie de la façon suivante. On différencie les épilepsies focales, qui partent d'une région limitée du cerveau, des épilepsies généralisées où immédiatement ou très très rapidement à tout le moins, tout le cerveau va s'embraser. Et du coup, les manifestations vont pouvoir être extrêmement différentes. On a de temps en temps une petite secousse qui dure moins d'une milliseconde, et ça, c'est déjà une crise d'épilepsie. Et puis, de temps en temps, de grandes convulsions qui vont durer plusieurs dizaines de secondes, voire minutes, qui peuvent être suivies par une phase de coma, par exemple, après. Et vous voyez que l'expression est extrêmement différente, et les conséquences sur la vie quotidienne vont être extrêmement différentes. Des fois même, on peut faire une crise d'épilepsie sans que personne ne se rende compte de rien. Donc, c'est vraiment extrêmement varié. Ça va être varié dans la prise en charge, et puis du coup, le diagnostic de certaines crises qui passent un petit peu inaperçues peut être un petit peu plus difficile à faire parce qu'on n'a pas forcément de symptômes d'appel.
Est-ce qu'il y a justement certaines maladies psychiatriques qui sont davantage liées à certaines de ces épilepsies ? Par exemple, quand on a des crises généralisées, il y aurait des manifestations, on va dire, des troubles psychiatriques plus graves, plus difficiles encore à surmonter ? Docteur Masson ?
Justement, c'est plutôt l'inverse. Les crises généralisées d'emblée ne sont souvent pas associées de manière significativement plus importante à des troubles psychiatriques qu'en population générale. Par contre, comme on le disait il y a quelques instants, les épilepsies donc focalisées, c'est-à-dire celles qui ont un siège, même si elles se généralisent secondairement, mais il y a un point de départ bien précis que l'on peut souvent identifier à l'électroencéphalogramme, et notamment quand il s'agit des régions frontotemporales, eh bien là, par contre, il y a une surreprésentation effectivement de troubles psychiatriques et en particulier de troubles dépressifs.
Alors, il y a un facteur qu'on peut retrouver dans la littérature sur cette question, cette maladie en particulier, c'est les patients qui résistent au traitement contre l'épilepsie qui seraient davantage sujets aux troubles psychiatriques. Comment on a pu établir justement cette donnée de dire en fait plus notre épilepsie est difficile à traiter, plus on a des risques d'avoir en plus une dépression ou des troubles anxieux assez importants.
Alors c'est vrai mais c'est pas une fatalité, ni dans un sens ni dans l'autre. On sait globalement que lorsqu'on décide de traiter un patient qui souffre d'une épilepsie, on va réussir à équilibrer facilement un petit quart des patients, un peu plus difficilement avec un seul médicament la moitié des patients et éventuellement avec plusieurs médicaments, en gros un peu plus des deux tiers des patients, et on a 25-30% des patients qui malheureusement continuent à présenter des crises malgré le traitement. Alors généralement ils en font moins, éventuellement elles sont moins fortes, mais ils continuent à avoir des crises malgré le traitement, c'est ça qu'on appelle la pharmacorésistance. Alors effectivement ça va directement impacter la vie quotidienne du fait des crises, comme les traitements sont plus lourds, on a éventuellement plus de facteurs favorisant de processus psychiatriques, notamment dépressifs et anxieux. Et donc, ces patients-là sont particulièrement à risque. Mais il faut quand même se garder d'une chose, c'est d'imaginer qu'on ne risque d'être déprimé ou anxieux que parce qu'on a une épilepsie pas équilibrée. Il y a des patients qui ont une épilepsie parfaitement équilibrée et qui vont présenter quand même plus fréquemment que la population générale des troubles psychiatriques. Ça peut être la conséquence donc d'un phénomène unique dans le cerveau, ça peut être la conséquence des traitements, mais aussi éventuellement de la crainte des crises qui elle-même peut impacter directement la vie quotidienne, même si finalement elles sont équilibrées. On peut continuer à les craindre et ça peut parfois être très compliqué.
Justement, docteur Marc Masson, est-ce qu'il y a une prise en charge de ce point de vue-là? Quelqu'un qui présenterait même un caractère phobique, ne plus sortir dans la rue, ne plus aller dîner avec des amis parce qu'il a peur que cette fameuse crise arrive. Est-ce que le médecin peut lui venir en aide justement pour qu'il puisse continuer à avoir une vie sociale de qualité?
Ah oui, tout à fait. Bon, là, effectivement, donc ça se fait en concertation, effectivement, avec les collègues neurologues, mais un médecin, un psychiatre, voire un psychologue spécialisé dans des thérapies qu'on appelle notamment cognitives et comportementales, peut aider à lutter, effectivement, contre la survenue de ces phobies, voire même d'une certaine agoraphobie qui peut s'installer secondairement, effectivement, à la peur de déclencher une crise et d'être, je dirais, vu en public dans un état de santé anormal.
On va prendre dans quelques instants un auditeur en ligne, si vous le voulez bien. Mais d'abord, cette question, on a parlé des patients pharmaco-résistants. Est-ce que, du point de vue du psychiatre, maintenant, docteur Marc Masson, certains antidépresseurs sont contre-indiqués pour quelqu'un qui souffre d'épilepsie ?
Alors, oui, globalement, les médicaments antiépileptiques que nous utilisons contrôlent, si vous voulez, élèvent suffisamment le seuil épileptogène pour quand même prescrire la plupart des antidépresseurs. C'est-à-dire que même si on sait que plusieurs antidépresseurs peuvent augmenter le risque de crise, les médicaments antiépileptiques que nous avons aujourd'hui permettent globalement de contrôler ce risque. Cependant, certains antidépresseurs, notamment la venlafaxine, qui est un médicament antidépresseur qui est très largement prescrit, augmentent nettement le risque de crise. On le voit très bien lors des enregistrements électroencéphalographiques, et puis chez les patients, effectivement.
Docteur Marc Masson.
Donc, celui-là est à éviter, en l'occurrence.
On en reparlera peut-être tout à l'heure avec justement les questions des auditeurs. On va tout de suite leur donner la parole.
Priorité santé sur RFI.
Et le premier de ces auditeurs, c'est Rodrigue, en ligne du Sénégal, de Dakar. Bonjour Rodrigue.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Rodrigue.
Bonjour. Bon, je me présente, j'ai 28 ans. Je suis épileptique depuis l'âge de 16 ans. Je fais des crises tonico-cloniques, c'est-à-dire qui se caractérise avec des contractions et raidissement des muscles accompagnés par des fortes crises. Bon, je fais environ une crise par mois. Une crise généralisée, c'est-à-dire, bon, accompagnée avec des cris qui dérangent tout l'immeuble, bon, mon environnement et consort. Le plus dur dans cette maladie n'est pas la maladie en tant que telle pour moi, mais c'est le regard des autres.
Et vous disiez, quand vous faites vos crises, il y a des cris, il y a des manifestations très bruyantes, tout ça vous gêne terriblement. Ça vous bloque dans vos études? Vous êtes étudiant, c'est bien ça?
Oui, je suis étudiant en deuxième année.
Et ça vous bloque dans vos études?
Bon, c'est très, 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 très dur pour moi, parce que je ne peux pas rester. Si je reste un mois sans piquer une crise généralisée, je rendrai grâce à Dieu. Mais le plus souvent, je pique une crise généralisée, c'est-à-dire un mal très, très, qui me met mal à l'aise pendant toute une semaine, parce que là, j'ai la douleur dans les muscles, je ne peux rien faire durant presque toute une semaine, accompagné des maux de tête.
Vous êtes prise en charge, est-ce que vous suivez un traitement particulier, Rodrigue?
Oui, je suis un traitement depuis 2010, j'ai commencé à suivre des traitements. Mais avant, c'était au village, on me demandait de suivre des traitements traditionnels et comme ça. Mais là, avec le traitement médicamenteux, cela n'empêche, je pique toujours des crises, mais cela permet de faire moins de crises et de retrouver un rythme de vie normal.
Vous avez remarqué que ces crises, elles étaient plus espacées, elles avaient lieu moins fréquemment?
Oui. Tout récemment, bon, je peux dire que c'est un peu stable, bon, par rapport aux années précédentes.
Est-ce qu'il vous arrive de voir souvent votre médecin pour éventuellement qu'il regarde avec vous ce qui marche et ce qui ne marche pas dans votre traitement, éventuellement pour le changer?
Là, je n'ai pas un médecin, pour dire vrai, je n'ai pas un médecin très spécialisé qui me suit ici. Là, je ne suis pas ce genre de...
Est-ce que vous auriez la possibilité d'aller voir un neurologue à Dakar?
À Dakar, bon. Peut-être j'aurai la possibilité de le faire après, mais présentement, je ne le fais pas.
Est-ce que votre famille vous soutient? Parce que c'est important quand on a ce type de maladie. Est-ce qu'autour de vous, vous avez des gens qui sont avec vous et qui peuvent vous aider?
Et là, je dirais oui. Ma famille me soutient. Mon grand frère, quant à lui, c'est grâce à lui que je suis les traitements même aujourd'hui. Il est à Dakar ici. J'étais à Ziguinchor, moi, je suis d'origine Ziguinchor. Hein. C'est grâce à lui que je suis à Dakar pour avoir un rythme de vie un peu normal. Parce qu'à Ziguinchor, là-bas, quand je piquais des crises, je me sentais un peu bête devant les gens. Même jusqu'ici à Dakar, même, je peux le dire, je me sens un peu bête une fois que je reprends confiance. Je me sens un peu bête. Parce que le regard des autres me permet de me voir autrement. On ne me considère plus comme une personne normale en tant que comme les autres. À Ziguinchor, auparavant, quand je piquais des crises, on allait même jusqu'à vouloir m'attacher parce que pour ne pas que je fuis ou piquer. Bon.
Donc vous ressentez une grande gêne, quasiment de la honte à cause de tout ce regard des autres sur vous quand vous faites ces crises?
Oui.
Alors, est-ce que vous avez une question, Rodrigue, hein? Les deux médecins qui sont avec moi en studio, le neurologue Gilles Huberfeld, le docteur Marc Masson, qui est psychiatre, vous écoute.
Je vis dans l'espoir de guérir un jour. Hein? Mais ce que j'aimerais demander, poser comme question, c'est de me dire vraiment si la maladie est guérissable, est guérissable ou... Finirais-je un jour par guérir de cette maladie honteuse, je dirais. Parce que c'est une maladie à double peine. Non seulement physiquement, je me sens mal quand je pique des crises, mais dans mon environnement, c'est une autre type de vie que j'essaie juste de dompter, mais ça ne va pas là. C'est une maladie très dure. Quand on ne sait pas que... Quand les gens ne savent pas, ils agissent normalement. Mais dès qu'ils savent qu'on est épileptique, on essaie de nous protéger en nous évitant de certaines relations avec eux dans la société et conscience. C'est ce qui me gêne au fait de la maladie.
On entend bien, Rodrigue, votre désarroi et un sentiment de honte aussi qu'on essaye pourtant de balayer dans cette émission, puisqu'on parle d'une maladie et des maladies honteuses, ça n'existe pas. Docteur Gilles Huberfeld, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Rodrigue?
Alors, d'abord, honte à ceux qui stigmatisent, pour commencer. Ensuite, évidemment, je connais pas votre épilepsie. On a dit tout à l'heure qu'il y avait une variété importante de crises d'épilepsie, mais j'ai l'impression qu'une épilepsie qui démarre à 16 ans, qui ne s'exprime que par des crises tonico-cloniques généralisées, ce qu'on appelle les convulsions, la plupart du temps, c'est pas très compliqué à équilibrer. Donc je pense qu'il serait important que vous voyiez un neurologue qui connaisse bien l'épilepsie. Malheureusement, tous les neurologues ne connaissent pas forcément bien l'épilepsie, pour essayer de comprendre exactement l'épilepsie dont vous souffrez et pour optimiser votre traitement. Et très honnêtement, il y a une probabilité assez élevée pour que votre épilepsie soit parfaitement contrôlée. Est-ce qu'elle va guérir ? Il faut qu'on différencie la maladie qui persiste dans le cerveau et on doit prendre des médicaments pour empêcher que les crises arrivent, de guérir la maladie, c'est-à-dire qu'on n'aurait même plus besoin de prendre des médicaments parce qu'on serait plus à risque de faire des crises. Certaines épilepsies guérissent toutes seules. Ça pourrait être le cas de la vôtre, mais c'est pas forcément très typique parce que celles qui commencent à 16 ans, la plupart du temps, ne guérissent pas toutes seules. Ça peut être le cas pour certaines épilepsies de l'enfant. Donc encore une fois, il faut essayer de vraiment faire le point. Et puis, il faut... Encore une fois, bien équilibré, je pense que évidemment vous aurez beaucoup mieux. Et il faut revoir un petit peu avec vous la souffrance que vous vivez par rapport à votre épilepsie pour essayer de faire en sorte que vous soyez beaucoup moins handicapé dans la vie.
Justement, docteur Marc Masson, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette souffrance, on peut pas diagnostiquer une dépression comme ça, mais en tout cas cette immense souffrance qui s'entend dans ce que dit Rodrigue par rapport à l'image de lui et surtout cette image déplorable que lui renvoie les autres par leur méconnaissance de la maladie.
Oui, c'est ça, c'est vrai que c'est vraiment toujours bouleversant d'entendre un témoignage comme celui de Rodrigue où effectivement il parle d'une double peine, donc celle d'avoir une pathologie que bien sûr on n'a absolument pas choisie, que l'on subit, surtout comme c'est dans son cas une pathologie qui commence au tout début de l'âge adulte où on est en train de lancer son existence et on se retrouve entravé par cette maladie qui va grever notre quotidien. Donc effectivement, et cela se double effectivement d'un regard très négatif et injuste des personnes qui nous entourent parce qu'elles ne comprennent pas ce qui se passe et effectivement elles mobilisent peut-être tout un réseau de croyances, d'a priori, alors qu'au fond qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on a ce type de maladie? Eh bien notre cerveau est constitué de milliards de neurones et une certaine partie de ces neurones vont se dépolariser de manière excessive, de manière anormale, et de manière généralisée probablement chez vous, Rodrigue, et provoquer donc une crise probablement tonico-clonique généralisée d'après ce que vous nous dites. Donc il n'y a rien là de maléfique, il n'y a rien là de honteux, il s'agit simplement d'un dérèglement électrique au niveau neuronal, et comme le disait le docteur Huberfeld, qu'aujourd'hui certains traitements permettent de contrôler de manière vraiment très bonne. Et donc, on peut espérer, Rodrigue, que vous puissiez rencontrer un collègue pour contrôler au mieux ces crises généralisées et, si possible, en être totalement libre pour mener votre vie comme vous le souhaitez.
Voilà, Rodrigue, hein, pour ces deux messages, ces deux conseils des médecins qui sont avec nous dans Priorité Santé. On vous souhaite une très bonne journée à Dakar et puis beaucoup de courage. Bonne journée à vous.
Ok, bonne journée, merci beaucoup.
Merci à vous. On va prendre une auditrice à présent en ligne. Elle est au Gabon, à Libreville. Bonjour Liliane.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Liliane.
Moi je suis enseignante. Je suis un élève en classe de CM2. Il fait des crises depuis le 6.
Liliane, je pense, excusez-moi de vous interrompre, je pense qu'il faut que vous rapprochiez absolument du téléphone parce que vous êtes un peu loin, on a du mal à vous entendre et je pense que ce que vous avez à nous dire est assez important pour que ce soit bien clair. On vous écoute.
Oui, donc je dis que je suis un enfant en classe de CM2 qui est épileptique et il fait souvent ses crises à l'école. Au début, les parents nous disaient qu'il fallait juste qu'il ne fasse pas trop d'activité physique, de le surveiller pendant les récréations. Mais malgré ça, il arrive quand même qu'il fasse une crise d'épilepsie. Et la première fois qu'il a fait, c'était vraiment un événement dans l'école parce que tous les enfants étaient autour de lui. D'autres se moquaient, d'autres étaient étonnés. C'était la première fois pour eux. Et déjà qu'il avait fait, il était un peu isolé dans la cour. Donc, on n'avait pas pu arriver à temps pour mettre quelque chose dans sa bouche. Donc, il s'était mordu la langue et il y avait du sang qui sortait. Mais après, avec le temps, on a essayé d'expliquer aux élèves que c'était une maladie comme tout autre, qu'il ne fallait pas se moquer de leur condition, qu'ils souffraient, et au contraire, ils devaient le soutenir, et parfois même contrôler. Il fait souvent des fièvres, ou bien s'il voit qu'il commence à changer, pour signaler ça à un enseignant.
Et justement, est-ce que les enfants de votre école ont été sensibles à ce message? Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce que du coup, le sort de cet enfant s'est amélioré au sein du monde scolaire?
Bon, moi, je n'ai pu le faire que dans ma classe. Je n'ai pas eu la permission de le faire pour tous les élèves quand on les rassemble et on explique. Donc, je n'ai pu le faire que dans la classe où il est. Et certains ont changé de comportement vis-à-vis de lui. C'est vrai qu'il y en a toujours deux ou trois qui continuent à l'embêter, mais il s'intègre bien dans l'école. Le problème, c'est juste qu'il a un retard aussi. Donc, il est plus grand que les autres. Il a déjà 16 ans. On nous explique que c'est aussi par rapport à sa maladie qu'il a ce retard.
Je vais donner la parole au docteur Gilles Huberfeld. Je pense qu'il va réagir. Vous avez parlé du déclenchement de la crise, Liliane, et des gestes à faire face à cette crise, notamment quand on a la crainte, hein, qui est assez développée, que les personnes se blessent dans la bouche, notamment. On essaye des fois, docteur Huberfeld, d'attraper la langue. Et est-ce que c'est une bonne conduite à tenir?
Non.
Voilà.
Alors, juste quelques conseils. Quand on fait une crise d'épilepsie, qu'on appelle tonico-clonique généralisée, comme ça, de convulsion, on peut pas empêcher la crise de se dérouler. Donc, il y a malheureusement pas grand-chose à faire. La personne va tomber. Donc, il faut essayer de l'accompagner au sol de manière à ce qu'elle se blesse pas au sol. Il faut essayer de repousser autour certains objets qui pourraient être dangereux. S'il y a un bord de table, par exemple, on va essayer de repousser la table. Et puis, malheureusement, il faut laisser la crise vivre son cours. On peut pas faire grand-chose. La morsure de langue, c'est un problème. Effectivement, il arrive parce qu'on a des contractions un petit peu brutales de la mâchoire, qu'on se morde les bords de la langue. Malheureusement, ça, ce n'est quasi pas évitable. Chez certains patients, on a des canules un peu compliquées à mettre dans la bouche. Très honnêtement, nous qui avons l'habitude, on n'arrive déjà presque jamais à les mettre. Donc malheureusement, il n'y a rien à faire. On ne met pas d'objet dans la bouche pour empêcher que la langue ne soit mordue. Pas de cuillère, pas de stylo, pas de doigt, évidemment, non plus. Et si ça doit arriver, malheureusement, ça doit arriver. Le conseil suivant, c'est que quand la crise est finie, souvent, les patients sont dans un état un peu comateux, qui peut durer très peu de temps et parfois plus longtemps. Et au cours de cet état, il arrive qu'ils vomissent. Et quand ils sont couchés sur le dos, s'ils vomissent, ils peuvent ensuite inhaler leur vomissure. Et c'est pour ça qu'on conseille de les mettre ce qu'on appelle en position latérale de sécurité, sur le côté. Comme ça, au pire, si jamais ils vomissent, ça va tomber par terre et ça n'ira pas dans leurs poumons. Et ensuite, on les laisse tranquilles. On les oppresse pas. On n'essaye pas de les stimuler. On n'essaie pas de les réveiller. Évidemment, on donne pas de claques. Et puis, ils vont se réveiller quand ils vont se réveiller. Donc on laisse malheureusement les choses se faire. Ensuite, vous, en tant que maîtresse, comment est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça? Il y a deux aspects. Il y a un aspect finalement un peu médical par rapport à cet enfant. C'est d'essayer de voir effectivement s'il est suivi, d'essayer de voir s'il est traité par des médicaments. Et peut-être de voir à l'école comment vous pouvez vous organiser pour aider à la prise de médicaments. Vérifier qu'il les a prises aux heures qu'il doit les prendre, si c'est pendant le temps scolaire. Ça peut être important. Et puis il y a une partie stigmatisation. Alors moi, je pense que vous avez une chance d'avoir un enfant qui a une épilepsie, c'est que peut-être vous pouvez parler à la classe du fonctionnement du cerveau et d'illustrer comment ce fonctionnement du cerveau, il peut de temps en temps se faire de manière anormale sous la forme d'une crise d'épilepsie. Vous avez une chance également de parler de ce que c'est que la maladie par rapport aux autres et d'essayer d'expliquer que l'homme malade est un homme évidemment et qu'il faut peut-être une attention particulière, que dans la différence il y a également de soi-même et que ça peut être une occasion effectivement de parler de l'humain aux autres classes. Et c'est extrêmement important qu'il soit dans cette classe, qu'il soit scolarisé, qu'il soit inclus dans le processus.
Voilà, Liliane, pour ces conseils à la fois pratiques et à la fois pédagogiques pour poursuivre justement cette politique d'intégration de tous les enfants dans le milieu scolaire, qu'ils soient bien portants ou non. Très bonne journée à vous à Libreville, au Gabon. On perçoit bien, messieurs, la charge sur la qualité de vie des personnes touchées. On l'a vu avec Rodrigue, qui est adulte. On voit avec cet enfant à l'école. On le voit avec des personnes de tout âge. Docteur Gilles Huberfeld, c'est quelque chose que vous évoquez en consultation?
Alors, c'est très souvent lourd. C'est variable, hein, et c'est variable en fonction de la personne, c'est variable en fonction de l'environnement, mais effectivement c'est quelque chose qu'on aborde généralement dès le début de la prise en charge, à savoir qu'il va falloir gérer le regard de l'autre, le rapport à l'autre, et que ça risque parfois d'être compliqué, parfois d'être simple, et que finalement être traité efficacement c'est aussi déjà un bon moyen d'essayer de limiter les conséquences que ça va avoir. Mais il faut en parler.
Docteur Marc Masson, est-ce que il y a des gens, on dirait, qui ne souffrent pas de troubles psychiatriques à proprement parler, mais qui viendraient vous voir pour ce mal-être associé simplement à l'épilepsie?
Oui, alors je trouve qu'il y a un point commun, si vous voulez, entre certaines pathologies du cerveau qui sont plus stigmatisées que d'autres. Par exemple, des pathologies du cerveau comme les accidents vasculaires, les tumeurs, les abcès. N'importe qui peut se représenter ce que c'est que d'avoir une tumeur dans sa tête, comme on peut avoir une tumeur dans l'estomac ou ailleurs dans le corps, ou un vaisseau qui se bouche ou qui claque et qui provoque une inondation hémorragique. Par contre, il y a d'autres pathologies du cerveau, particulièrement celles qui se développent dans les anomalies des fonctionnements des réseaux neuronaux, et donc effectivement, les épilepsies et la plupart des troubles psychiatriques ont un dysfonctionnement cérébral de cette nature. Et du coup, elles sont très compliquées à se représenter, non seulement pour la personne qui en souffre, mais aussi pour l'entourage, pour les proches, pour le milieu du travail, etc. Donc je dirais, malheureusement, le pouvoir stigmatisant est beaucoup plus fort parce qu'il est très difficile de se représenter ce que peut être ce type de maladie, quelle va être son origine. Pour les dépressions, par exemple, très souvent, on entend dans les proches, mais il faut te secouer, voilà. Alors, pour les épilepsies, puisque c'est notre sujet, il y a beaucoup, on l'a évoqué déjà, mais de croyances qui ont explicatives, enfin pseudo-explicatives, pour essayer de comprendre pourquoi ces personnes perdent connaissance, tombent par terre, ont des mouvements anormaux.
Mais même sur la volonté physique d'entrave, hein, oui. Quand cet auditeur nous disait, on l'attachait. C'est quelque chose d'une absolument, violence absolue.
Absolument.
Non, et absolument contre-indiquée en plus en termes pour le déroulement. Est-ce que finalement, docteur Huberfeld, la crise doit se passer parce qu'il faut calmer ce qui se passe dans le cerveau?
Alors, c'est compliqué de répondre à ça. Peut-être que dans certaines épilepsies, il y a une espèce de pile qui doit se vider. C'est un modèle, c'est peut-être le cas pour certaines crises. On a par exemple des patients qui nous décrivent, ils sont pas fréquents, hein, mais qui nous décrivent relativement bien qu'ils sentent pendant plusieurs jours que la crise va arriver, qu'il se passe des petites choses, et tant que la crise ne se déroulera pas dans son entièreté, ça ira pas, puis après ils seront bien, ils se sentiront mieux, et puis ils seront tranquilles en plus pendant un certain temps. Honnêtement, ça c'est pas très fréquent, et c'est généralement pas comme ça que ça se passe. Et la plupart du temps, les patients ont plus une espèce de vécu dans l'angoisse que la crise arrive et que ça va les invalider. Et c'est avant tout de ce registre-là.
Alors on va prendre un autre avis. Et pour cela, on part tout de suite au Togo.
Priorité santé
sur RFI.
Et on vous retrouve, professeur Mofou Bello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de neurologie au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Vous aussi, professeur Bello, vous constatez ces atteintes conjointes assez fréquemment lors de vos consultations, comorbidité psychiatrique avec l'épilepsie ?
Bien sûr. C'est bien évident qu'il y ait des comorbidités psychiatriques et l'épilepsie, et ça constitue un véritable problème. Pour nous, neurologues, qui avons des difficultés pour mettre en place des réseaux avec les psychiatres afin de mieux prendre en charge nos patients épileptiques.
Des difficultés justement pour arriver à ce mélange, à ce partage des disciplines. Qu'est-ce que vous constatez en termes d'impact sur les populations, sur la qualité de vie? On a eu tout à l'heure des auditeurs justement d'Afrique subsaharienne qui ont pointé notamment la stigmatisation. Il y a aussi toutes les questions de la prise en charge et des traitements.
Oui, c'était des interventions qui étaient très touchantes. Et bouleversante comme nos confrères l'ont souligné tout à l'heure. Mais avant d'arriver là, permettez-moi de faire quelques petites précisions pour nos auditeurs. Pour dire que l'épilepsie est une maladie qui ne vient que du cerveau et de nulle part ailleurs. Terre à terre, je voudrais préciser qu'au niveau du cerveau, à sa partie supérieure, il existe des cellules. Qu'on appelle des neurones, et qui se comportent comme des fils électriques et qui se joignent de bout en bout pour transporter du courant électrique à très basse tension. Dans les conditions normales, ce courant est constant. Mais lorsque ces cellules subissent une agression en rapport avec une modification environnementale, les fils électriques vont se comporter anormalement et générer un conflit qui va se traduire chez l'homme ou la femme par des secousses au niveau des membres et parfois une perte de connaissances et d'autres manifestations qui ont été décrites. Il est donc clair que la maladie ne vient pas d'une possession de l'esprit par un démon. L'envoûtement serait à exclure de même que le mauvais sort.
Professeur Mofou Bello, je vous coupe parce que vous dites qu'il faut informer les patients, mais apparemment les patients, eux, semblent bien informés. Le problème, c'est plutôt l'entourage et le regard des autres.
Oui, bien sûr. Et c'est à ce sujet que nous avons essayé de faire une enquête au Togo il y a quelques années et qui a permis de comprendre la maladie, de faire comprendre la maladie. Dans la population générale, cette enquête avait permis de savoir que l'épilepsie était perçue comme une maladie héréditaire et contagieuse. Et cette croyance devait intervenir des déterminants métaphysiques plutôt que génétiques. Et cette contagion serait faite de façon magique lors de la phase de conclusion où l'esprit quitterait le malade pour chercher à remplir un quelqu'un d'autre, soit par le biais de la sueur, la salive, les urines, soit seulement par le toucher. Alors, ces notions d'hérédité et de contagiosité sont d'autant plus citées lors de l'enquête, que le niveau d'instruction était bas. Pour 78% de la population générale, au Togo, l'épilepsie était curable, et cela davantage par la médecine traditionnelle que la médecine moderne. Vous voyez un peu ce qui se passe dans les conceptions. Alors, l'épileptique paraissait avoir un statut particulier au sein de la communauté.
On comprend bien cette dimension très importante de l'éducation, de l'information. Je suis navrée de devoir vous couper, professeur Mofou Bello. La ligne avec Lomé n'est pas très bonne. On a du mal à comprendre tout ce que vous dites. On comprenait bien cet exposé sur cette dimension culturelle très très importante. Merci en tout cas pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes chef de service de neurologie au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. en signe de conclusion, on va prendre une auditrice en ligne. On a son message et je vous demanderai tous les deux de réagir à ce message. Elle s'appelle Ranès, elle est en région parisienne et elle nous a téléphoné tout à l'heure. Elle a raconté, hein, je vais lire son message. J'ai des antécédents épileptiques, j'ai grandi au Cameroun. La dernière fois que j'ai eu une crise, j'avais 18 ans, j'en ai plus de 30 aujourd'hui. Mais j'ai développé de nouvelles pathologies, j'ai des crises d'angoisse, j'ai connu la dépression suite à des soucis dans ma vie. Je suis suivie par un neurologue et un psychiatre et je veux encourager ceux qui ont connu des crises d'épilepsie. Je sais que c'est difficile de vivre avec le regard des autres. Il faut que cette stigmatisation cesse. C'est ce qu'on disait, les patients savent quel chemin prendre, ils savent aller voir les médecins, mais ce qui reste difficile pour la plupart d'entre eux, enfin quand ils ont en tout cas la possibilité d'avoir les spécialistes à proximité de chez eux, la difficulté c'est quand même, on vit en étant épileptique, mais vivre avec la maladie c'est quand même très compliqué, docteur Huberfeld.
Alors c'est compliqué, les patients savent le chemin pour aller chez le médecin. Pas forcément. C'est parfois très compliqué.
On peut dire que, par exemple, s'ils vont voir un généraliste, on leur va pas forcément leur indiquer le bon spécialiste à suivre.
La majorité des patients souffrant d'épilepsie en France sont quand même pris en charge par leur médecin généraliste, qui parfois fonctionne extrêmement bien et puis parfois moins. Les rendez-vous sont parfois très lointains avec les neurologues. C'est encore pire avec les épileptologues parce qu'on a une toute petite communauté en France. Donc l'accès aux soins, il n'est pas si simple que ça. L'association avec les psychiatres, le travail main dans la main, il ne se fait pas partout et c'est pas toujours très simple. Donc en fait, c'est pas toujours de mise.
Mais c'est vrai que cette auditrice était en région parisienne. C'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus accessible quand on est près de Paris.
C'est certainement moins pire.
Moins pire. En tout cas, ce travail conjoint, c'est quelque chose qu'il faut développer. Est-ce qu'on sent une véritable amélioration de l'état de ces patients quand il y a justement cette double prise en charge ?
Oui, tout à fait. Docteur Masson ? Tout à fait. Donc, bon, évidemment, je connais le docteur Huberfeld et puis j'ai aussi la chance d'avoir une collègue neurologue à la clinique à Garches qui est le docteur Carole Azua. Et donc, nous travaillons ensemble, notamment autour des patients qui souffrent d'épilepsie et de troubles psychiatriques. Et effectivement, comme l'a dit Ranès dans son témoignage, je crois qu'il faut être porteur d'espoir parce qu'en travaillant ensemble, on peut vraiment améliorer la qualité de vie, à la fois, bien sûr, contrôler la maladie épileptique au mieux et puis prendre en charge les pathologies psychiatrique associé, il n'y a rien d'irrémédiable et nous avons les moyens thérapeutiques et psychothérapeutiques d'améliorer la situation des patients. Donc je pense que ça c'est très important et puis pour lutter contre la stigmatisation, je pense que c'est le témoignage de patients qui est vraiment le plus fort et le témoignage de Ranès par exemple est tout à fait exemplaire je trouve à cet égard.
Justement vous disiez thérapie, il y a des psychothérapies qui peuvent se révéler particulièrement efficaces pour les patients qui sont atteints de ces doubles pathologies.
Oui, alors c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans certains détails. J'ai évoqué les thérapies cognitives et comportementales quand il y a des problèmes anxieux associés, notamment des phobies. Il peut y avoir également la prise en charge en addictologie avec un accompagnement au sevrage quand il y a une comorbidité addictive. Et puis, il y a un autre aspect aussi que l'on peut rencontrer, des personnes qui ont été victimes de traumatismes, de psychotraumatismes, d'abus. Et on sait que certaines formes de crises d'épilepsie peuvent s'associer à des crises qu'on appelait autrefois psychogène, c'est-à-dire relié à des traumatismes qui ont eu lieu dans l'enfance ou dans l'adolescence.
On va dire un événement déclencheur, par exemple ?
Enfin, non, c'est un événement qui a traumatisé la personne, voire un abus, carrément. Et on a aujourd'hui des thérapies, des psychothérapies, comme le MDR, par exemple, qui permet de prendre en charge spécifiquement ces psychotraumatismes qui peuvent aggraver l'évolution de certaines épilepsies en provoquant d'autres types de crises.
Merci beaucoup, hein. C'est, le temps est compté, hélas. Merci à vous deux d'être venus répondre à toutes ces questions dans les studios de RFI. Docteur Gilles Huberfeld, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, chercheur dans le laboratoire de l'INSERM, épilepsie de l'enfant et plasticité cérébrale. Et merci à vous, docteur Marc Masson, psychiatre directeur médical de la clinique du château de Garches en région parisienne, rédacteur en chef adjoint aussi de la revue L'Encéphale. On parle maintenant santé alimentation dans Priorité Santé avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Aujourd'hui, On va parler du gluten, de l'intolérance au gluten. C'est assez à la mode en France en particulier. Alors pour commencer votre chronique, d'abord, qu'est-ce que c'est que le gluten ?
Alors c'est un ensemble qui est formé par deux protéines, la gliadine et la gluténine. Et il faut bien rappeler à tout le monde que cette protéine, cette forme, cet ensemble est présent que dans quatre céréales majoritairement mangées, qui sont le blé, le sel, l'orge, l'avoine, et dans deux variétés, mais qu'on trouve pratiquement plus de blé, qui sont le camut et les peutes, qui sont des vieilles variétés. Et on retrouve ce composé dans un grand nombre du coup de préparations d'aliments qui sont notamment à base de blé, hein, comme le couscous ou comme les pâtes ou comme le pain. Et c'est aussi une forme qu'on retrouve de plus en plus dans les préparations industrielles parce que le gluten va donner une forme de gélatinification qui va permettre de faire plein de préparations industrielles, alors très connues comme les croissants, comme d'autres choses. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant dans les aliments bruts, mais aussi dans pas mal d'aliments ultra transformés.
Alors il y a une expression qu'on entend beaucoup, c'est l'intolérance au gluten. Qu'est-ce que c'est précisément, Stéphane ?
Alors, il faut bien différencier deux choses, en fait. Il faut différencier l'intolérance au gluten, j'allais dire la vraie de vraie, celle qui s'appelle la maladie cœliaque, en fait, qui est quand même une maladie qui est très grave, qui touche presque une personne sur 100 en Europe, et qui est due à un problème immunitaire, c'est-à-dire qu'à un moment, le système immunitaire va se retourner contre la paroi de l'intestin et va créer des désordres assez importants qui vont pouvoir amener des carences importantes, mais aussi des désagréments très forts. Et là, on est sur une maladie qui est quand même très très fort. Après, on a maintenant quelque chose qui est de plus en plus courant et donc qui est pas encore totalement cartographié pleinement, qui est la sensibilité ou l'hypersensibilité au gluten. Et du coup, la paroi intestinale là est pas du tout attaquée. Il n'y a pas ce phénomène vraiment auto-immun, mais par contre, des gens se plaignent de désagréments liés à la consommation du gluten.
Alors, comment justement savoir si on est touché par une intolérance et quelles sont les conséquences pour la santé?
Alors, elle peut se déclarer à n'importe quel âge déjà. C'est pas forcément les adultes ou les enfants, contrairement à ce qu'on peut attendre. Chez les enfants, en général, on s'en rend compte assez vite parce que la manifestation est brutale. Il y a des troubles intestinaux très forts. Le fait qu'il y ait des carences aussi, souvent, il y a une rupture de la courbe de croissance chez l'enfant, dû à ces problèmes d'absorption et de malabsorption. Donc ça, on s'en rend compte très souvent.
Et on fait un test sanguin pour le confirmer.
Tout à fait. Et d'ailleurs, en Afrique, il faut le rappeler ici, souvent on oublie complètement la maladie cœliaque quand on a des enfants en sous-nutrition ou carencés, de regarder justement cette question-là, et on l'occulte complètement alors qu'elle est quand même présente, même si elle l'est peut-être moins aujourd'hui qu'elle l'est chez nous. Et chez l'adulte, maintenant, c'est plus compliqué parce que les symptômes peuvent être nombreux, ils peuvent être, j'allais dire, confondus avec d'autres problèmes digestifs, et il est central de pas, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui c'est une des grandes questions quand même, s'auto-diagnostiquer une intolérance au gluten, parce que derrière, souvent il y a des comportements alimentaires très restrictifs. S'ils sont nécessaires et qu'il y a une vraie intolérance, il faut le faire, mais après ça peut entraîner des conséquences négatives d'adopter une alimentation très restrictive quand il n'y a pas une réelle intolérance au gluten.
Ça veut dire que si on élimine les uns après les autres certains aliments, après on peut se retrouver vraiment en difficulté au moment de manger. Alors quels sont justement les conseils que nos auditeurs doivent retenir?
Alors d'abord, j'allais dire, pour les parents, il faut éviter, comme tout ce qui est un peu allergisant, on va dire, d'avoir des enfants à qui on met un régime avec du gluten très tôt. C'est-à-dire qu'en dessous de 6 mois, il faut éviter et après y aller progressivement. Et ensuite, pour les personnes qui présentent une sensibilité forte ou une intolérance totale au gluten, bah forcément, là, il va falloir faire une alimentation sans gluten, ce qui aujourd'hui n'est pas très facile. Et il faut souvent aller chercher sous les étiquettes, soit en anglais gluten-free, soit en français sans gluten, suivant les types de produits. Et après, pour les gens qui ont une sensibilité plus faible, et ben il suffit de faire attention, de diminuer un peu la consommation et à la sensation d'adapter. Pour les alors c'est vrai qu'en Europe c'est un peu plus compliqué. Maintenant, pour tous les auditeurs qui sont sur le continent africain ou en Amérique latine, c'est un petit peu plus facile parce qu'il faut bien se rappeler que le riz ne contient pas de gluten, le maïs non plus. Donc il y a pas mal de céréales et là il suffit de substituer les céréales et ça va permettre d'abolir complètement le problème. Et il faut, le dernier point qui est important à rappeler, parce que ça aussi on le retrouve de plus en plus dans les médias, une alimentation sans gluten, c'est pas un régime magique et c'est pas quelque chose qui permet de faire maigrir. C'est un point quand même qui aujourd'hui revient de plus en plus et qu'il faut repréciser.
Et ce qu'on dit souvent, de toute façon, c'est que les régimes magiques, eh bien, ça n'existe pas tout simplement. Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Cétoussama, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons de l'albinisme, impact sanitaire et social. Et vous pouvez réécouter notre émission sur internet rfi.fr, rubrique émission, et sur notre application Pure Radio. On se retrouve bien sûr demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.